pas mal de questions. Je vois que c'est pas commode d'entrer dans la philosophie de la matière. Ou dans la philosophie de la nature-matière. C'est bien. C'est très important. Je sais que c'est pas commode et que c'est difficile pour notre intelligence, pour nos prix intellectuels. Parce qu'on fait c'est ça. On a des conditionnements et on a beaucoup de peine d'entrer dans une pensée analogique. Alors, l'analogie ne nous fait pas découvrir. On découvre par l'induction. Pas l'oublier. L'analogie, après, nous permet de mieux saisir. Alors, d'abord, l'intelligence peut-elle désirer la forme morphée? Comme Morphée. Désirer. Ah pardon, l'intelligence peut-elle saisir la forme Morphée comme Morphée? Si on peut avoir l'expérience par les sensations, l'intelligence, elle, quand elle veut connaître la forme Morphée, ne passe-t-elle pas nécessairement? Je pense, oui. Attention, c'est justement, c'est exactement ce que je viens de dire. Nous ne pouvons pas passer de l'aïdos à la morphée. Parce que ça, ce serait vouloir, par l'analogie, découvrir. L'analogie n'est pas un procédé de découverte. La découverte, c'est l'induction. Il y a une induction qui nous fait découvrir l'aïdos. L'idée forme, au point de vue artistique, au point de vue de la réflexion que nous faisons sur l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, l'œuvre artisanale, tout ce qui est fait par l'homme. Et là, nous découvrons l'aïdos. C'est énorme de découvrir l'aïdos, parce que c'est un pli de l'intelligence et une découverte de l'intelligence. Ceci est en philosophie pratique. L'aïdos est en philosophie pratique. Concrète. En anthropologie. Quand je saisis la morphée, c'est le premier pas de l'intelligence. Après la matière. Mais avec la matière. Pas indépendante. Les deux se tiennent. C'est la différence de la morphée que je saisis le point elle-même. La morphée, je la saisis jamais pour elle-même. Je la saisis toujours relative à la matière. Puisqu'elle n'existe pas indépendamment de la matière. Alors je la saisis. C'est évident, il y a une saisie particulière, une connaissance de la morphée, mais indépendante de l'aïdos. Le danger, c'est justement le conditionnement de l'aïdos est tellement fort que je risque de saisir la morphée dans le prolongement de l'aïdos. C'est ce qu'on fait constamment, c'est ce que fait Kant. Alors, à ce moment-là, la philosophie de l'art devient le modèle de toute la philosophie spéculative. Et la philosophie spéculative est dans le prolongement de la philosophie de l'art. Et je peux affirmer l'aspect transcendantal de la subjectivité. L'aïdos. Ça, c'est très très important à comprendre, et ça fait comprendre la parole d'Aristote. Si toutes les réalités que j'expérimente sont des œuvres d'art, l'aïdos est substance. Donc je ramène la substance, principe selon la forme de ce qui est en tant qu'il est, à Leidos. Et je ramène la Morphée à Leidos. Et donc, c'est le conditionnement qui détermine. Je fais ça quand je suis fatigué. Parce que c'est le signe de la fatigue de considérer le conditionnement comme la détermination. Comme si le conditionnement me libérait. Tant que je suis dans le conditionnement, je ne suis pas libéré, je suis dépendant. La saisie de l'eidos est juste. Et par l'eidos, je me libère de toute œuvre artistique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je connais, première connaissance de l'œuvre artistique, l'eidos. Mais la morphée se connaît dans une nouvelle induction. Dans une nouvelle induction et pas dans le prolongement d'Aïdos. Et ceci est vrai pour toutes les parties de la philosophie. Toutes les parties de la philosophie apparaissent, naissent dans mon esprit à partir de l'induction, à partir de la saisie d'un principe nouveau. La morphée est un principe nouveau. Qui ne peut se comprendre que relatif à la matière. C'est un principe philosophique, spéculatif, du devenir, de ce qui est mu. Ce qui est mu est saisi comme matière et forme, et inséparable. Autrement, c'est plus le devenir. Si vous séparez la morphée de la matière, c'est plus le devenir. La morphée est immanente à la matière. Tandis que l'eidos n'est pas immanent à la matière. L'eidos naît dans mon esprit. L'eidos est intentionnel. Premièrement, elle est le fruit de l'intelligence artistique, de l'inspiration. Et donc, elle naît d'abord dans mon intelligence. Elle n'est pas d'abord dans la réalité. Tandis que la morphée existe dans la réalité. Mais toujours à partir du mouvement et dans le mouvement. La morphée est source, la nature forme est source du mouvement naturel. Elle détermine le mouvement naturel. Mais n'est pas séparé du mouvement naturel, comme la matière. Ça, c'est très important. Pourriez-vous préciser si la démonstration de l'existence du premier moteur que fait Aristote, donc là, on est dans une perspective très différente, hein? Mettez ça en nota bene, parce que ce n'est plus la saisie des principes. C'est un jugement sur la philosophie physique d'Aristote. Donc il faudrait bien comprendre tout le contexte. Aristote se trouve entre Platon et se trouve aussi en face de toute une tradition que Platon achève en disant le mouvement est inintelligible. La seule chose qui est intelligible, c'est l'eidos platonicienne, qui n'est pas l'eidos artistique. C'est la forme en soi. La forme en soi n'est pas artistique pour Platon, elle est la réalité. L'homme est avant tout âme séparée. Que cette âme soit liée au corps, c'est accidentel. C'est à cause du péché, à cause de la bêtise que l'âme a pu faire, parce qu'elle a dévié. Alors, ayant dévié, elle est condamnée à vivre avec un corps. Il ne faut jamais oublier ça. En face de Platon, qui dit que le devenir est inintelligible, Aristote montre que le devenir a sa propre intelligibilité. J'ai oublié ça. C'est très difficile de comprendre Aristote. Aristote, si vous ne voyez pas l'horizon Platon dans le fond. C'est vrai, c'est normal que vous dites les 20 ans disciples d'Aristote de Platon. C'est impossible que le cordon ombilical se coupe d'un seul coup. 20 ans. Nous n'avons que 3 ans ensemble, pas 20 ans. Mais ça, si on mettait 20 ans à Saint-Jonard, n'est-ce pas ? Saint-Jonard serait gros, 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 gros. Ce serait un monstre. Mais ça pouvait se faire, là, en Grèce, parce qu'on avait le temps. Mais on n'a plus le temps d'être d'ici pendant 20 ans. Ce qui est dommage. Parce que la différence d'âge entre Aristote et Platon, la différence d'âge entre nous, elle est plus grande que celle d'entre Aristote et Platon. C'est intéressant de voir tous ces problèmes-là et les comprendre. Alors, pourriez-vous préciser si la démonstration de l'existence du premier moteur que fait Aristote est une démarche qui relève de la philosophie de la nature, à proprement parler? Je dis non. Si cette démarche implique présupposer la métaphysique de la puissance, même pas. Elle présuppose la métaphysique, mais je crois de plus en plus que c'est une démarche qui est au fond critique. Ben, c'est ça la très grosse difficulté pour comprendre Aristote. C'est que la critique est constamment liée à sa recherche philosophique. Pour nous, grâce à Kant, je vous salue Kant là, c'est rare qu'on peut le saluer, mais là on le salue. Grâce à Kant, on est obligé de distinguer avec beaucoup plus de netteté, même que saint Thomas, le point de vue critique et le point de vue philosophique. Le point de vue philosophique est toujours lié au jugement d'existence, immédiatement. C'est le premier point de vue philosophique. Tandis que le point de vue critique est toujours, présuppose toujours une réflexion sur un point de vue philosophique. Donc, on regarde le déjà connu et on critique ça. Alors, je crois, c'est une hypothèse de recherche, parce que j'en suis de plus en plus convaincu. Aristote, qui doit montrer l'intelligibilité de ce qui est mu, en tant qu'il est mu, c'est sa préoccupation, commence par un point de vue critique et termine par un point de vue critique. Mais je crois que la physique d'Aristote, la philosophie de la nature d'Aristote, est enveloppée de deux points de vue critiques. Le premier livre et les deux derniers. Pour montrer que l'intelligibilité du mouvement existe, mais que cette intelligibilité du mouvement présuppose un premier moteur. Autrement dit, c'est une intelligibilité limitée et dépendante d'un premier moteur. Tout ce qui est mu par un autre. C'est un axiome. Mais, parce que l'autre, c'est quoi dans la nature ? C'est pas l'autre artistique. C'est l'autre premier moteur. Vous voyez ? Donc c'est bien, je crois qu'on peut le dire, une vision critique. Et que même saint Thomas n'a pas vu avec assez de netteté. C'était pas son métier. Hein. Saint Thomas devait faire une théologie scientifique, mais il n'est pas né pour nous expliquer Aristote. Il est né pour s'en servir. C'est pas la même chose. Mais nous, étant donné tout l'aspect critique qui a pénétré dans la philosophie est si important. On doit essayer de comprendre la pensée d'Aristote au plan philosophique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une philosophie réaliste ? Une philosophie réaliste qui découvre la métaphysique. Seule la métaphysique peut atteindre Dieu. Le devenir comme tel ne peut pas l'atteindre. Mais il peut, au plan critique, montrer que le devenir serait inintelligible sans un premier moteur. Mais ça, c'est pas l'ontologisme, justement. C'est un point de vue critique. Je dis ça de moi-même, parce que je ne l'ai jamais vu écrit. Mais c'est en réfléchissant sur la philosophie d'Aristote. Je réfléchis sur la philosophie d'Aristote depuis 1934. Donc, là-dessus, j'ai de l'avance sur vous. Et j'ai dû réfléchir seul, puisque 1934, il y avait très peu de traductions d'Aristote. Très peu. Il y avait des vieilles traductions, mais qui étaient tellement littéraires que ça ne servait pas à grand-chose. Donc il fallait lire Aristote directement le texte et se servir de la Vetus Latina. Ça peut aider. Parce qu'on connaît ordinairement mieux le latin que le grec. Mais quand on connaît mieux le grec que le latin, c'est l'inverse. Et on a avantage de connaître mieux le grec que le latin. Vous voyez ? Parce que le grec est une langue plus philosophique que le latin. Le latin n'est pas une langue philosophique. C'est une langue juriste. Ce sont des juristes latins. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus près de la logique que le grec. Le grec est très loin de la logique. Un grec, la logique, c'est quand même second. Le grec regarde la réalité dans sa diversité. Si, à partir de ce qui est mu, on pose l'existence du premier moteur immobile, peut-on dire que c'est encore en considérant la réalité, les réalités, sous la raison formelle de ce qui est mu? Justement, c'est en tant qu'il est. Ce qui est mu exige un premier moteur en tant qu'il est. Seul ce qui est me fait dépasser le devenir. Et donc c'est par l'être et par l'être seulement que je peux remonter jusqu'à Dieu. Et on comprend alors très bien la réflexion de Thomas d'Aquin dans le DNT Essentia, où saint Thomas montre avec netteté, si Dieu existe, en lui l'essence et l'existence sont un. Et donc je ne peux atteindre que par l'exister. Il n'y a pas de devenir en Dieu. Donc le devenir ne peut pas me permettre de rejoindre jusqu'à Dieu. Mais si je regarde l'être du devenir, alors je le fais par la critique. Mais je dis, tout ce qui est mu par un autre. Et l'autre, c'est une réalité autre qui n'est plus le devenir. C'est le premier moment. Alors comment découvrir le premier moment à partir de ce qui est mu? C'est à partir de ce qui est mu. Donc c'est l'être dans le devenir qui me permet de poser le premier moteur. Alors, pourriez-vous préciser la distinction qui existe entre une loi, un axiome et un principe? Oui, je comprends, ça c'est l'ordre critique. Nota bene critique. J'ai presque envie de le rejeter sur le cours de critique. Puisqu'on aura un cours de critique, donc c'est peut-être mieux. Parce qu'autrement, la philosophie de la nature, elle passe au bleu. Et c'est vrai qu'elle passe très vite, très vite. Parce que c'est tellement difficile de saisir le principe matériel. Ça jure un peu. dit la matière. Pure puissance, c'est donc second, et vous parlez de premier. Donc contradictoire. Vous voyez, c'est vrai. Comment voulez-vous découvrir un principe dans la matière? Puisque la matière est essentiellement en puissance. Ce qui est en puissance est essentiellement second. Donc il n'y a pas de premier. Pour mon intelligence, il y a un premier. Puisque ce devenir existe. Tout en étant le devenir. Donc, pour la critique, je le garde pour la critique. Ça fait partie des jugements. Pouvez-vous préciser ce qu'est la matière de l'artiste, la matière du philosophe de la nature, la nature matière, comparativement au sujet, la matière prima, à quel moment est-elle découverte? Est-ce la continuité constatée dans la génération substantielle qui oblige à poser une matière première, une matière prima? Puisque Aristote dit qu'elle se fait à partir d'un sujet, la semence. Cette découverte est-elle démonstration a posteriori? Très bien. Il y avait à Fribourg un grand japonais. J'ai vu son passeport. J'ai jamais vu ça du reste. Un passeport extraordinaire. Est-ce que le passeport aide à comprendre la personne, n'est-ce pas? Dans le monde d'aujourd'hui. Et ce passeport était illimité. Alors j'ai fait la remarque, j'ai dit comment ça se fait? Alors il a souri en japonais. C'était très extraordinaire. Il m'a dit oui, parce que je suis de race impériale. Alors il m'a expliqué à ce moment-là les différents aspects des dynasties qui ne régnaient plus, et oui, il restait de race impériale. Alors il avait un droit à ça. C'était curieux, c'était intéressant, ça m'intéressait, ça. Alors il a fait à Fribourg, c'était pas avec moi. Heureusement, une thèse, une thèse sur la matéria, la matière. Mais il me venait constamment me demander. Alors, je lui ai fait comprendre, et c'était très difficile, que la matière était quelque chose d'analogique. Alors, l'analogie dans la forme, ça se comprend assez facilement. Mais l'analogie dans la matière, ça se comprend beaucoup plus difficilement. Parce que la matière, liée à la quantité, est source d'univocité. Donc, chaque fois qu'on parle de la matière, on risque toujours de retomber dans l'univocité. Et c'est pour ça que c'est si difficile de saisir la matière à des niveaux différents. La matière se comprend, en définitive, à partir de la puissance. C'est vrai. Ça, c'est un regard métaphysique sur la matière. Et c'est le regard le plus intelligible que je peux avoir. Et Aristote, au fond, si on est très attentif à ses œuvres, on voit que dans chaque œuvre différente, la matière a des sens différents. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Quand on lit Aristote uniquement au niveau philologique, on prend matière et on croit que c'est toujours le même sens. Et alors on n'y comprend rien. La matière, au niveau métaphysique, c'est la pure puissance. Donc, materia prima, la pure puissance, qui n'a d'intelligibilité qu'en fonction de l'acte. ce qui est en puissance n'est intelligible que par l'acte. Et cependant, elle existe. D'où la tentation de dire que la matière est du non-être. Position de Platon. Chaque fois que vous lisez Aristote, regardez toujours la position de Platon. C'est très important pour bien saisir Aristote. Pour Platon, le point de vue de la matière est du non-être. Pourquoi? Parce que la pure potentialité du non-être. Or, ce n'est pas du non-être, c'est un être en puissance. Un être en puissance, il a son intelligibilité imparfaite, dépendante de l'acte, mais il a son intelligibilité. Et la matière première a donc une certaine intelligibilité, mais négative en quelque sorte, dépendante de l'acte. Vous avez ensuite la saisie de la matière, les deux extrêmes. Prenez ça comme ça, vous allez peut-être mieux le saisir. Philosophie première, donc métaphysique. Je la regarde en fonction de la distinction de l'être en acte et en puissance. Dans cette lumière-là, c'est le dernier regard que j'ai sur la matière. La matière est pure puissance. L'autre extrême, philosophie de l'art ou philosophie de l'activité artistique, c'est plus juste. Hein. J'ai le point de vue matière égale sujet. C'est-à-dire le sujet sur lequel je travaille. L'artiste travaille toujours sur une matière. On vous l'a dit l'autre jour, hein, à propos des vitraux. Une matière très élaborée, une matière déjà très particulière sur laquelle on travaille. Tandis que lorsqu'il s'agit de la peinture, vous voyez, c'est tout à fait différent. Puisque l'artiste qui peint, il fait ses couleurs. L'artiste qui fait des vitraux mendie ses couleurs. Un artisan du verre. Pas la même chose de faire ses couleurs ou de les mendier. C'est très intéressant de voir ça, tu vois. C'est très intéressant de voir la dépendance de l'artiste à l'égard de la matière. Un véritable artiste dépend de sa matière. Mais s'il la domine, et je domine autrement la matière dans la peinture que la matière dans le vitrail. Je ne sais pas autrement. C'est pas du tout la même domination. La domination de la matière pour le vitrail, ce sont les relations, les harmonies. Dans la couleur, dans la peinture, c'est la couleur elle-même qui est dominée par l'artiste, puisqu'il l'a fait. Vous voyez? Alors, la matière pour chaque art varie. Et c'est le sujet sur lequel je travaille. Je coopère avec ce sujet, avec cette matière sujet. Cette matière sujet, elle est très très différente. Le poète travaille sur la parole. Et la parole est matière pour le poète. Le musicien travaille sur le point de vue des différents sons. Et il met l'harmonie. C'est lui qui travaille de cette manière-là. C'est pour ça qu'il y a des ressemblances entre le vitrail et la musique. Le vitrail chante beaucoup plus que le tableau. Un vitrail, ça chante. de façon très curieuse. Alors évidemment, si on ne sent pas le champ du vitrail, c'est à côté. Si vous regardez le vitrail en fonction d'un tableau, ça va pas. C'est pour ça que j'avais mis exprès le tableau à côté pour voir toute la différence. Et c'est très significatif, ça, quand on voit le même artiste qui fait le tableau et qui fait le vitrail. Alors, il y aurait des tas de choses à voir là-dessus, mais c'est pas le... à voir. Donc, on travaille la matière pour l'artiste, c'est le sujet que je transforme. Et la matière, c'est ce qui est capable d'être transformé. C'est la définition marxiste de la matière. C'est intéressant. La praxis, donc le travail, la praxis coopère avec la matière. Et la praxis, c'est le lien du travail et de la matière. Et la matière, c'est ce qui est capable de transformer. Quelle est la matière de l'art, de l'éducation? C'est le petit bonhomme à transformer pour qu'il devienne une personne. Vous voyez, faire qu'il ne crie qu'à certains moments, qu'il ne mange qu'à certains moments et qu'il ne soit pas tout le temps à manger. Vous voyez, ce n'est pas normal que vous apportiez ici au cours votre bol de café, la tartine, de temps en temps, pour y aller. Vous voyez, ça baisse le niveau. Si on faisait ça, vous ne seriez plus aussi attentif. Parce qu'au moment où vous prenez le miel, vous vous emmieliez. Et votre intelligence ne peut plus dépasser. Est une intelligence séparée. L'intelligence de l'artiste n'est jamais une intelligence séparée. Autrement, il platonise. Elle est à l'intérieur de la matière. Et son eidos doit jaillir de la matière. Parler à un sculpteur, c'est très très net. C'est la forme jaillit de la matière. Elle est éduquée de la matière. Vous voyez, et toute gérée, elle sort de la matière. Donc, la matière sujet. Le sujet sur lequel je travaille. Et je travaille sur un sujet parce qu'il peut être transformé. Si vous travaillez sur un sujet qui ne peut pas être transformé, votre travail est inefficace. Il vous fait grincer des dents. C'est inefficace, ça ne touche pas. Travailler une matière inflexible, une matière qui ne bouge pas, vous userez tout, tout, tout. Et c'est la matière qui sera victorieuse. Parce qu'elle sera invincible. Alors que la matière en art, que vous choisissez, elle est toujours vaincue. Elle est transformée par le donc, voyez, capacité d'être transformée. C'est la définition de la matière point artistique. Et c'est la même que chez Marx. C'est intéressant à ce point de vue-là. Mais c'est un, donc, c'est une matière, je veux dire, vue à partir du travail, dans la lumière du travail. Vous les définissez à part de ça. Qu'est-ce que j'ai transformé? Qu'est-ce qui a été donné dans la matière? Et c'est très intéressant du reste à voir, parce que cette matière que vous transformez, vous la connaissez. Mais si vous avez, par exemple, dans le bois, un nœud que vous n'avez pas vu, vous allez vous heurter là-dessus, et vous ne pourrez pas. C'est ce que constamment le sculpteur, quand il ne connaît pas suffisamment la matière qui est opaque, il peut tomber sur une veine qu'il n'avait pas vue et qui fait un éclat. Alors c'est le défaut de la matière. C'est pas le défaut de son eidos, c'est le défaut de la matière. L'artiste assume la matière. Il la fait sienne. Dieu qui façonne le corps de l'homme à partir de l'argile. Le potier qui façonne son vase à partir de l'argile. Il le façonne. Il y a quelque chose de de la manière de l'artiste. Et vous pourrez tout de suite, si vous êtes un peu habitué, voir tout de suite, ah, cette poterie, elle relève de tel atelier. Cette poterie, elle a... On fait ça. Et on voit donc l'éthos, qui est la parole de l'artiste, dans la matière. Et qui fait que je reconnais tout de suite l'artiste à ce langage. C'est un langage qui est à l'intérieur de la matière. Vous avez ensuite philosophie de la nature. À partir du mouvement expérience, ce qui est mieux. Cette connaissance de la matière, nature-matière, n'est ni la matière métaphysique, ni la matière artistique. Alors, ça vous aide à mieux comprendre, mais elle ne dépend pas de la métaphysique, elle ne dépend pas de la philosophie de l'art, mais génétiquement, si la philosophie de l'art est première, elle conditionne toute ma philosophie. Toute ma philosophie réaliste est conditionnée par la philosophie de l'art. Or, la philosophie de l'art est quand même en pleine lumière, eidos et matière. Eidos, forme. Ici, forme et matière. C'est les deux. Et l'œuvre d'art implique les deux. Donc, matière-sujet. C'est pour ça que la matière-sujet est quand même toujours là. En philosophie de la matière, en philosophie spéculative, donc ici, je suis en philosophie pratique. Ici, philosophie spéculative. Le passage des deux est très intéressant. Parce que tout de suite, je fais la différence entre nature, matière et sujet. La matière, en philosophie de la nature, n'est pas le sujet. Elle est principe. Or, le sujet n'est pas principe. Le sujet, c'est un pos, un comment. Le sujet est une réalité existante. Tandis que la nature matière, la matière, si vous voulez, est principe. Principe propre. De ce qui est mu. Donc un principe propre, c'est un tiesti de ce qui est mu. C'est un principe qui implique l'autre principe, la forme, la nature-forme. Alors vous retrouvez le couple eidos, matière, sujet. Morphée, matière. Le couple est tout autre. Il est tout autre. Mais il y a une analogie. Et la véritable analogie, vous savez bien, implique en premier lieu la diversité. Alors si l'analogie implique en premier lieu la diversité, l'analogie ne me fait pas découvrir. Je découvre nature-matière, nature, par l'induction. Et la voie inductive de la philosophie de la nature, de la philosophie de la matière, a son induction propre. L'expérience est ce qui est mu. Et j'interroge ce qui est mu pour connaître dans ce qui est mu, qu'est-ce qui est premier. Qu'est-ce qui caractérise en premier lieu ce qui est mu? C'est la matière. Et cette matière est inséparable de la forme. Mais je la distingue. Je distingue les deux. Mais les deux sont toujours liés. varier. Dans ce qui est mu. Ce qui est mu implique forme et matière. Mais ce qui est mu, je peux distinguer dans ce qui est mu ce qui caractérise ce qui est mu. Qu'est-ce qui caractérise ce qui est mu? Le primat de la matière. Parce que ce qui est mu ne pourrait pas être mu s'il n'y avait pas une potentialité radicale, foncière, première, la matière. Et donc c'est bien ce qui caractérise ce qui est mu, c'est la matière. Alors, cette matière, elle est relative à la nature forme. Elle est ce qui est capable d'être déterminé par la forme. Ce qui est capable d'être modifié. Vous voyez, capacité de modifier, il y a quelque chose d'analogue. Mais la différence, c'est que ce qui est capable d'être modifié par l'eidos, cette modification est extrinsèque à la nature du sujet. Elle est artificielle. Tandis qu'au contraire, ce qui est capable d'être déterminé, la détermination est immanente à la matière. C'est là la très grosse différence. Alors il reste la question de la materia prima. Alors, je ne sais pas s'il faudrait regarder dans un lexique pour voir si la materia prima est employée par Aristote. C'est très possible que ce soit Thomas d'Aquin. Ce serait intéressant, tu restes à voir. Si c'est Thomas d'Aquin qui a inventé la materia prima, sans doute avec Avicenne. Ça sera un sujet intéressant, un petit sujet, c'est évident. Petite note intéressante à noter, à voir. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a d'ajouté. Parce que materia prima, dans le sens de ce que c'est que la matière, pour la materia prima, ce serait la matière vue du côté métaphysique. Pure puissance. Et que seule la métaphysique peut parler de materia prima. La philosophie de la nature ne parle pas de materia prima, puisque c'est toujours la nature, c'est toujours le couple, donc on n'en parle pas, c'est relatif. La forme physique et la matière physique expliquent ce qui est mu, et ce qui est mu implique toujours quelque chose de relatif. Donc la materia prima ne peut être qu'une vision métaphysique ou une vision critique.